Propos sur le bonheur par Alain Émile Chartier 1868-1951 Suite Propos 17 Gymnastique. Comment expliquer qu'un pianiste, qui croit mourir de peur en entrant sur la scène, soit immédiatement guéri dès qu'il joue? On dira qu'il ne pense plus alors à avoir peur, et c'est vrai. Mais j'aime mieux réfléchir plus près de la peur elle-même et comprendre que l'artiste secoue la peur et la défait
par ses souples mouvements des doigts.
Car, comme tout se tient en notre machine, les doigts ne peuvent être déliés si la poitrine ne l'est aussi. La souplesse comme la raideur envahit tout, et dans ce corps bien gouverné, la peur ne peut plus être vraie. Le vrai chant et la vraie éloquence ne rassurent pas moins par ce travail mesuré qui est alors imposé à tous les muscles. Chose remarquable, et trop peu remarquée, ce n'est point la pensée qui nous délivre des passions, mais c'est plutôt l'action qui nous délivre. On ne pense point comme on veut, mais quand des actions sont assez familières, quand les muscles sont dressés et assouplis par gymnastique, on agit comme on veut. Dans les moments d'anxiété, n'essayez point de raisonner, car votre raisonnement se tournera en pointe contre vous-même. Mais plutôt essayez ces élévations et flexions des bras que l'on apprend maintenant dans toutes les écoles. Le résultat vous étonnera. Ainsi le maître de philosophie vous renvoie au maître de gymnastique. Un aviateur m'a conté quelle belle peur il eut pendant 2 heures, alors qu'il était couché sur l'herbe, attendant l'éclaircie et méditant sur des dangers contre lesquels il ne pouvait rien. En l'air et jouant sur l'instrument familier, il fut guéri. Ce récit me revenait en mémoire comme je lisais quelques-unes des aventures de l'illustre Funk. Un jour, se trouvant à 4000 mètres au-dessus du sol, dans un avion à canon, il s'aperçoit que les commandes n'obéissent plus et qu'il tombe. Il cherche la cause, aperçoit enfin un obus échappé de son casier et qui immobilisait tout, le remet en place, toujours tombant, et relève son appareil sans autre dommage. De telles minutes sont bien capables, par souvenir ou bien en rêve, d'effrayer encore aujourd'hui cet homme courageux. Mais si l'on voulait croire qu'il eut peur dans le moment même, comme il peut avoir eu peur en y pensant, je crois que l'on se trompe. Notre corps nous est difficile en ce sens que, dès qu'il ne reçoit pas d'ordre, il prend le commandement. Mais en revanche, il est ainsi fait qu'il ne peut être disposé de 2 manières en même temps. Il faut qu'une main soit ouverte ou fermée. Si vous ouvrez la main, vous laissez échapper toutes les pensées irritantes que vous teniez dans votre poing fermé. Et si vous haussez seulement les épaules, il faut que les soucis s'envolent, que vous serriez dans la cage thoracique. C'est de la même manière que vous ne pouvez à la fois avaler et tousser, et c'est ainsi que j'explique la vertu des pastilles. Pareillement, vous vous guérirez du hoquet si vous arrivez à bâiller. Mais comment bâiller? On y arrive très bien en mimant d'abord la chose, par étirements et bâillements simulés. L'animal caché, le même qui vous donne le hoquet sans votre permission, sera mis ainsi dans la position de bâiller, et il bâillera, puis s'en remettre contre le hoquet, contre l'atout et contre le souci. Mais où est le médecin qui ordonnera de bâiller tous les quarts d'heure?
16 mars 1922
Propos 18 Prière. On ne peut pas du tout penser le son « i » en ouvrant la bouche. Essayez et vous constaterez que votre « i » silencieux et seulement imaginé deviendra une espèce d'a. Cet exemple fait voir que l'imagination ne va pas loin si les organes moteurs du corps exécutent des mouvements qui la contrarient. Le geste vérifie cette relation par l'épreuve directe, puisqu'il dessine tous les mouvements imaginés. Si je suis en colère, il faut que je ferme les poings. Cela est bien connu, mais on n'en tire pas communément une méthode pour régler les passions. Toute religion enferme une prodigieuse sagesse pratique. Par exemple, contre les mouvements de révolte d'un malheureux qui veut nier le fait et qui s'use et redouble son malheur par ce travail inutile, le maître à genoux et la tête dans ses mains, cela vaut mieux qu'un raisonnement. Car par cette gymnastique, c'est le mot, vous contrariez l'état violent de l'imagination et vous suspendez un moment l'effet du désespoir ou de la fureur. Mais les hommes, dès qu'ils sont livrés aux passions, sont d'une naïveté étonnante. Ils croiront difficilement à des remèdes aussi simples. Un homme à qui on a manqué fera 1000 raisonnements d'abord pour confirmer l'offense. Il cherchera des circonstances aggravantes, et il en trouvera. Voilà, dira-t-il, les causes de ma juste colère, et je ne veux point du tout me désarmer et me délier. Tel est le premier moment. Ensuite viendra la raison, car les hommes sont des philosophes étonnants. Et ce qui les étonne le plus, c'est que la raison ne puisse rien contre les passions. La raison me le dit chaque jour. Cette remarque est de tous. Et il manquerait quelque chose au tragique si le héros monologuant n'épuisait tout ce qui se plaide. Et cette situation, mise au net par les sceptiques, est ce qui donne force à l'idée d'une fatalité invincible. Car le sceptique n'a rien inventé. La plus ancienne idée de Dieu, comme la plus raffinée, vient toujours de ce que les hommes se sentent jugés et condamnés. Ils ont cru, pendant la longue enfance de l'humanité, que leur passion venait des dieux, comme aussi leurs rêves. Et toutes les fois qu'ils se sont trouvés soulagés et comme délivrés, ils ont vu là un miracle de grâce. Un homme bien irrité se met à genoux pour demander la douceur, et naturellement il obtient, s'il se met bien à genoux, entendez, s'il prend l'attitude qui exclut la colère. Il dit alors qu'il a senti une puissance bienfaisante qui l'a délivré du mal. Et voyez comme la théologie se développe naturellement. S'il n'obtient rien, quelque conseiller lui montrera aisément que c'est parce qu'il n'a pas bien demandé, parce qu'il n'a pas su se mettre à genoux, enfin parce qu'il aimait trop sa colère. Ce qui prouve bien, dira le théologien, que les dieux sont justes et qu'ils lisent dans les cœurs. Et le prêtre n'était pas moins naïf que le fidèle. Les hommes ont subi longtemps les passions, avant de soupçonner que les mouvements du corps humain en étaient la cause, et qu'ainsi une gymnastique convenable en était le remède. Et comme ils ont remarqué les puissants effets de l'attitude, du rite, disons de la politesse, ces soudains changements d'humeur que l'on appelle conversion furent longtemps des miracles. Et la superstition consiste toujours, sans doute, à expliquer des effets véritables par des causes surnaturelles. Et encore maintenant, dans le feu des passions, même les plus instruits ne croient pas aisément ce qu'ils savent le mieux. 24 décembre 1913. Propos 19. L'art de bâiller. Un chien qui bâille au coin du feu. Cela avertit les chasseurs de renvoyer les soucis au lendemain. Cette force de vie qui s'étire sans façon et contre toute cérémonie est belle à voir. Et irrésistible en son exemple. Il faut que toute la compagnie s'étire et bâille, ce qui est le prélude d'aller dormir. Non que bâiller soit le signe de la fatigue, mais plutôt c'est le congé donné à l'esprit d'attention et de dispute par cette profonde aération du sac viscéral. La nature annonce par cette énergique réforme qu'elle se contente de vivre et qu'elle est lasse de penser. Tout le monde peut remarquer qu'attention et surprise coupent, comme on dit, respiration. La physiologie enlève là-dessus toute espèce de doute, en faisant voir comment les puissants muscles de la défense s'accrochent au thorax, et ne peuvent que le resserrer et paralyser dès qu'il se mobilise. Et il est remarquable que le mouvement des bras en l'air, signe de capitulation, est aussi le plus utile à délivrer le thorax. Mais c'est aussi la position de choix pour bâiller énergiquement. Comprenons d'après cela comment n'importe quel souci nous serre littéralement le cœur, l'esquisse de l'action, appuyant aussitôt sur le thorax et commençant l'anxiété, sœur de l'attente. Car nous sommes anxieux seulement d'attendre, et aussi bien quand la chose est de peu. De cet état pénible suit aussitôt l'impatience, colère contre soi qui ne délivre rien. La cérémonie est faite de toutes ces contraintes que le costume aggrave encore et la contagion, car l'ennui se gagne. Mais aussi le bâillement est le remède contagieux de la contagieuse cérémonie. On se demande comment il se fait que bâiller se communique comme une maladie. Je crois que c'est plutôt la gravité, l'attention et l'air du souci qui se communiquent comme une maladie. Et le bâillement, au contraire, qui est une revanche de la vie et comme une reprise de santé, se communique par l'abandon du sérieux et comme une emphatique déclaration d'insouciance. C'est un signal qu'ils attendent tous, comme le signal de rompre les rangs. Ce bien-être ne peut être refusé, tout le sérieux penché par là. Le rire et les sanglots sont des solutions du même genre, mais plus retenues, plus contrariées. Ils s'y montrent une lutte entre deux pensées, dont l'une enchaîne et l'autre délivre. Au lieu que, par le bâillement, toutes les pensées sont mises en fuite, liantes ou délivrantes, l'aisance de vivre les efface toutes. Ainsi, c'est toujours le chien qui bâille. Chacun a pu observer que le bâillement est toujours un signe favorable dans ce genre de maladie que l'on nomme nerveuse, et où c'est la pensée qui fait maladie. Mais je crois que le bâillement est salutaire dans toute comme le sommeil qui l'annonce. Et c'est un signe que nos pensées sont toujours pour beaucoup dans les maladies, chose qui étonnerait moins si l'on songeait au mal que l'on peut se faire en se mordant la langue. Et le sens figuré de cette expression fait bien voir comment le regret, bien nommé remords, peut aller à la lésion. Le bâillement, au contraire, est sans aucun risque. 24 avril 1923. Propos 20. Humeur. Selon le système de l'exaspération, rien n'est meilleur que de se gratter. C'est choisir son mal, c'est se venger de soi sur soi. L'enfant essaie cette méthode d'abord. Il crie de crier, il s'irrite d'être en colère et se console en jurant de ne pas se consoler, ce qui est boudé. Faire peine à ceux qu'on aime et redoubler pour se punir. Les punir pour se punir. Par honte d'être ignorant, faire serment de ne plus rien lire. S'obstiner à être obstiné. Tousser avec indignation. Chercher l'injure dans le souvenir. Aiguiser soi-même la pointe. Se redire à soi-même, avec l'art du tragédien, ce qui blesse et ce qui humilie. Interpréter d'après la règle que le pire est le vrai. Supposer des méchants afin de se condamner à être méchant. Essayer 100 fois et dire après l'échec « Je l'aurais parié, c'est bien ma chance ». Montrer partout le visage de l'ennui et s'ennuyer des autres. S'appliquer à déplaire et s'étonner de ne pas plaire. Chercher le sommeil avec fureur. Douter de toute joie. Faire à tout triste figure et objection à tout. De l'humeur, faire humeur. En cet état, se juger soi-même, se dire « je suis timide, je suis maladroit, je perds la mémoire, je vieillis », se faire bien laid et se regarder dans la glace. Tels sont les pièges de l'humeur. C'est pourquoi je ne méprise pas les gens qui disent « voilà un froid sec, rien n'est meilleur pour la santé ». Car que peuvent-ils de mieux ? Se frotter les mains est deux fois bon quand le vent souffle du nord-est. Ici, l'instinct vaut sagesse. Et la réaction du corps nous suggère la joie. Il n'y a qu'une manière de résister au froid, c'est d'en être content. Et, comme dirait Spinoza, maître de joie, ce n'est point parce que je me réchauffe que je suis content, mais c'est parce que je suis content que je me réchauffe. Pareillement, donc, il faut toujours se dire, ce n'est point parce que j'ai réussi que je suis content, mais c'est parce que j'étais content que j'ai réussi. Et si vous allez quêter la joie, faites d'abord provision de joie. Remerciez avant d'avoir reçu, car l'espérance fait naître les raisons d'espérer, et le bon présage fait arriver la chose. Que tout soit donc bon présage et signe favorable. C'est du bonheur, si tu veux, que le corbeau t'annonce, dit Épictète. Il ne veut pas dire seulement par là qu'il faut faire joie de tout, mais surtout que la bonne espérance fait réelle joie de tout, parce qu'elle change l'événement. Si vous rencontrez l'ennuyeux, qui est aussi l'ennuyé, il faut sourire d'abord. Et faites confiance au sommeil, si vous voulez qu'il vienne. Bref, aucun homme ne peut trouver en ce monde de plus redoutable ennemi que lui-même. Je décrivais plus haut l'existence d'une espèce de fou. Mais les fous ne sont que nos erreurs grossies. Dans le moindre mouvement d'humeur, il y a la manie de la persécution en raccourci. Et certes, je ne nie point que ce genre de folie tienne à quelques lésions imperceptibles de l'appareil nerveux qui commande nos réactions. Toute irritation finit par creuser son propre chemin. Seulement je considère en eux ce qui peut nous instruire, et c'est cette redoutable méprise qu'ils nous montrent, grossie, et comme sous la loupe. Ces pauvres gens font la demande et la réponse. Ils jouent tout le drame à eux seuls. Incantation magique, toujours suivie des faits. Mais comprenez pourquoi. 21 décembre 1921. Propos 21 des caractères. Chacun a de l'humeur selon le vent et selon l'estomac. L'un donne un coup de pied dans la porte l'autre frappe l'air par des paroles qui n'ont pas plus de sens que les coups de pied. La grandeur d'âme laisse tomber ces incidents dans l'oubli. Qu'elle les subisse des autres ou de soi, elle les pardonne parfaitement, parce qu'elle n'y pense jamais. Mais ce qui est commun, c'est de consacrer l'humeur et en quelque sorte d'en jurer. C'est ainsi que l'on se fait un caractère, et de ce qu'on a pris de l'humeur un jour contre quelqu'un, on vient à l'aimer moins. Pardonner à soi, en ce sens-là, c'est plus rare qu'il ne faudrait, et c'est souvent la première condition si l'on veut pardonner aux autres. Au contraire, un genre de remords sans mesure est souvent ce qui grossit la faute de l'autre. Ainsi, chacun promène son humeur, pensée, disant « je suis ainsi ». C'est toujours dire plus qu'on ne sait. Il arrive que l'on supporte mal les parfums. Cette humeur contre les bouquets et l'eau de Cologne n'est point constante. Mais chercher et flairer le moindre parfum, et jurer qu'on en fera migraine, c'est ce qui se voit. On jure de tout, comme de tousser pour la fumée. Chacun a connu de ces tyrans domestiques. Celui qui souffre d'insomnie jure de ne point dormir. Et s'il décrète que le moindre bruit le réveille, le voilà à guetter tous les bruits et à accuser toute la maison. Cela va jusqu'à s'irriter d'avoir dormi, comme d'avoir manqué de vigilance à l'égard de son propre caractère. On fait infatuation de tout, et même de perdre aux cartes, comme j'ai vu. Il y a des gens qui se mettent à croire qu'ils n'ont plus de mémoire, ou bien qu'ils ne trouvent plus leurs mots. Ici, la preuve ne se fait pas attendre, et cette comédie de bonne foi tourne quelquefois en tragédie. On ne peut nier les réelles maladies et les effets de l'âge. Mais les médecins ont depuis longtemps remarqué ce redoutable esprit de système qui fait que le malade cherche les symptômes et trop aisément les trouve. Cette amplification fait presque le tout des passions et une bonne part des maladies, surtout mentales. Charcot en vint à ne plus croire du tout ce que ces malades disaient d'elles-mêmes. Et l'on peut affirmer que certaines maladies ont disparu, ou presque, par l'incrédulité des médecins. L'ingénieux système de Freud, un moment célèbre, perd déjà de son crédit par ceci qu'il est trop facile de faire croire tout ce que l'on veut à un esprit inquiet, et qui, comme dit Stendhal, a déjà son imagination pour ennemi. Sans compter que les choses du sexe, qui sont le dessous de ce système, sont justement de celles qui comptent par l'importance qu'on leur donne, et par une sorte de sauvage poésie, comme chacun sait trop. Et les pensées du médecin ne sont jamais bonnes aux malades, tout le monde le sait. Ce que l'on sait moins, c'est que le malade a promptement deviné cette pensée étrangère et l'a faite sienne, ce qui vérifie aussitôt les hypothèses les plus brillantes. C'est ainsi que l'on a décrit d'étonnantes maladies de la mémoire où les souvenirs d'une certaine espèce se perdaient ensemble systématiquement. On avait oublié que l'esprit de système est aussi dans le malade. 4 décembre 1923. Propos 22. La fatalité. Nous ne savons rien commencer, je dis même pour allonger le bras. Nul ne commence par donner ordre aux nerfs ni aux muscles, mais le mouvement commence de lui-même. Notre affaire est de le suivre et de l'achever pour le mieux. Ainsi, ne décidant jamais, nous dirigeons toujours, comme un cocher qui ramène le cheval emporté. Mais il ne peut ramener que le cheval qui s'emporte. Et voilà ce qu'on appelle partir. Le cheval se réveille et s'enfuit. Le cocher oriente ce sursaut. De même, un navire, s'il n'a point d'impulsion, il n'obéit point au gouvernail. Bref, il faut partir n'importe comment. Il est temps alors de se demander où l'on ira. Qui est-ce qui a choisi? Je le demande. Personne n'a choisi, puisque nous sommes tous, d'abord, des enfants. Personne n'a choisi, mais tous ont fait d'abord. Ainsi, les vocations résultent de la nature et des circonstances. C'est pourquoi ceux qui délibèrent ne décident jamais. Il n'est rien de plus ridicule que les analyses de l'école où l'on pèse les motifs et mobiles. C'est ainsi qu'une légende abstraite et qui sent le grammairien nous représente Hercule choisissant entre le vice et la vertu. Nul ne choisit, tous sont en marche et tous les chemins sont bons. L'art de vivre consiste d'abord, il me semble, à ne point se quereller soi-même sur le parti qu'on a pris ni sur le métier qu'on fait. Non pas, mais le faire bien. Nous voudrions voir une fatalité dans ces choix que nous trouvons faits et que nous n'avons pas faits. Mais ces choix ne nous engagent point, car il n'y a point de mauvais lot. Tout lot est bon si on veut le rendre bon. Il n'y a rien qui marque mieux la faiblesse que de discuter sur sa propre nature. Nul n'a le choix. Mais une nature est assez riche pour contenter le plus ambitieux. Faire de nécessité vertu est le beau et grand travail.
Nas,
que n'ai-je étudié ? C'est l'excuse du paresseux. Étudie donc. Je ne crois pas qu'avoir étudié soit une si grande chose si l'on n'étudie plus. Compter sur le passé est justement aussi fou que se plaindre du passé.
De ce qui est fait,
rien n'est si beau qu'on puisse s'y reposer. Rien n'est si laid qu'on ne le puisse sauver. J'inclinerais même à croire que les belles chances sont plus difficiles à suivre que les mauvaises. Si les fées ont orné votre berceau, méfiez-vous. Ce que je vois de beau dans un Michel-Ange, c'est ce vouloir fougueux qui reprend en main les dons naturels et fait d'une vie facile une vie difficile. Cet homme sans complaisance avait les cheveux tout blancs quand il allait, disait-il, à l'école, afin d'essayer d'apprendre quelque chose. Cela montre aux irrésolus qu'il est toujours temps de vouloir. Et le marin ne rirait-il pas de vous si vous lui disiez que toute la traversée dépend du premier coup de barre ? C'est pourtant ce que l'on voudrait faire croire aux enfants. Mais heureusement, ils n'écoutent guère. Encore trop pourtant, s'ils viennent à former l'idée métaphysique d'après laquelle ils jouent toute leur existence sur béaba. Cette funeste idée ne les change guère dans l'enfance, et leur nuit plus tard, car c'est l'excuse des faibles qui fait les faibles. La fatalité est la tête de Méduse. 12 décembre 1922. Propos 23. L'âme prophétique. Un philosophe assez obscur a voulu nommer âme prophétique un certain état de passivité attentive, si l'on peut dire, où nos pensées cèdent à toutes les forces du monde comme des feuilles de peuplier. C'est l'âme aux écoutes, étalée, offerte au cou en quelque sorte. État d'effarement. Je comprends la sibylle, son trépied et ses convulsions. Attention à tout, c'est-à-dire peur de tout. Je plains ceux qui ne savent pas annuler tout ce bruit et ce mouvement du grand univers. Quelquefois l'artiste voudrait retomber à cet état de donner audience à tout, à toute couleur, à tout son, à toute chaleur, à tout froid. Il s'étonne alors que le paysan ou le marin, si profondément plongé dans les choses naturelles et si dépendant par état, ne remarque point toutes ces nuances. Il y a un beau mouvement d'épaule qui se décharge de ces choses. C'est le geste royal. Le saint Christophe a traversé l'eau sans compter les vagues. On ne dort point, dit-il, quand on a tant d'esprit. On n'agirait point non plus. Il faut déblayer, simplifier, supprimer. Le propre de l'homme, il me semble, c'est d'avoir rejeté au sommeil toutes les espèces de demi-sommeil. Un signe de la belle santé, c'est de ne pouvoir tenir dans la rêverie et de passer tout de suite au sommeil. Et se réveiller, c'est rejeter le sommeil. Au lieu que l'âme prophétique s'éveille à demi et refait ses songes. On peut vivre ainsi, rien n'empêche. Nous sommes admirablement faits pour pressentir. Si l'on tient compte de cette fabrique du corps vivant, on comprend que les plus petits signes entrent en nous et s'y gravent. Un certain son du vent annonce de loin la tempête, et certes, il est bon d'être attentif aux signes, mais il ne faut pourtant pas sursauter au moindre changement. J'ai vu un baromètre enregistreur de très grande taille et tellement sensible qu'un chariot au voisinage ou seulement le pas d'un homme faisait bondir l'aiguille. Ainsi serions-nous, si nous nous laissions faire, et à mesure que le soleil tourne, notre humeur changerait. Mais le roi de la planète ne donne pas audience à toutes ces choses. Un homme timide, dans une société, veut tout entendre, tout recueillir, tout interpréter. Et pour lui, la conversation est aussi sotte et incohérente que si tous disaient tout ce qui leur vient. Mais le sage taille les signes et les discours comme un bon jardinier, encore mieux dans le monde, car toute chose nous toucherait et nous arrêterait. L'horizon serait sur nos yeux comme un mur, mais nous renvoyons les choses à leur place. Toute pensée est un massacre d'impressions. Défrichement. J'ai connu une femme sensible qui souffrait de voir couper un tronc ou une branche. Mais sans le bûcheron, on verrait revenir bientôt la broussaille, les serpents, le marécage, les fièvres, la faim. De même, il faut que chacun défriche son humeur. Nier sa propre humeur, c'est l'incrédulité même. Ce monde est ouvert par la serpe et la hache. ce sont des avenues aux dépens des songes. C'est comme un défi au présage. Au lieu que, dès que l'on est indulgent à soi et adorateur d'impressions, le monde se ferme sur nous, il s'annonce par sa présence. Cassandre annonce des mots. Méfiez-vous des Cassandres, âme couchée. L'homme véritable se secoue et fait l'avenir. 25 août 1913. Propos 24. Notre avenir. Tant que l'on n'a pas bien compris la liaison de toutes choses et l'enchaînement des causes et des effets, on est accablé par l'avenir. Un rêve où la parole d'un sorcier tue nos espérances. Le présage est dans toutes les avenues. Idée théologique. Chacun connaît la fable de ce poète à qui il avait été prédit qu'il mourrait de la chute d'une maison. Il se mit à la belle étoile, mais les dieux n'en voulurent point démordre, et un aigle laissa tomber une tortue sur sa tête chauve, la prenant pour une pierre. On compte aussi l'histoire d'un fils de roi qui, selon l'oracle, devait périr par un lion. On le garda au logis avec les femmes, mais il se fâcha contre une tapisserie qui représentait un lion, s'écorcha le poing sur un mauvais clou et mourut de gangrène. L'idée qui sort de ces contes, c'est la prédestination que des théologiens mirent plus tard en doctrine. Et cela s'exprime ainsi. La destinée de chacun est fixée quoi qu'il fasse, ce qui n'est point scientifique du tout, car ce fatalisme revient à dire, quelles que soient les causes, le même effet en résultera. Or, nous savons que si la cause est autre, l'effet sera autre, et nous détruisons ce fantôme d'un avenir inévitable par le raisonnement suivant. Supposons que je connaisse que je serai écrasé par tel mur, tel jour, à telle heure. Cette connaissance fera justement manquer la prédiction. C'est ainsi que nous vivons. À chaque instant, nous échappons à un malheur parce que nous le prévoyons. Ainsi, ce que nous prévoyons, et très raisonnablement, n'arrive pas. Cette automobile m'écrasera si je reste au milieu de la route, mais je n'y reste pas. D'où vient alors cette croyance à la destinée ? De deux sources, principalement. D'abord, la peur nous jette souvent dans le malheur que nous attendons. Si l'on m'a prédit que je serai écrasé par une automobile, et si l'idée m'en vient au mauvais moment, c'est assez pour que je n'agisse pas comme il faudrait. Car l'idée qui m'est utile à ce moment-là, c'est l'idée que je vais me sauver, d'où l'action suit immédiatement. Au contraire, l'idée que je vais rester me paralyse par le même mécanisme. C'est une espèce de vertige qui a fait la fortune des sorciers. Il faut dire aussi que nos passions et nos vices ont bien cette puissance d'aller au même but par tout chemin. On peut prédire à un joueur qu'il jouera, à un avare qu'il entassera, à un ambitieux qu'il briguera. Même sans sorcier, nous nous jetons une espèce de sort à nous-mêmes, disant « je suis ainsi, je n'y peux rien ». C'est encore un vertige et qui fait aussi réussir les prédictions. Si l'on connaissait bien le changement continuel autour de nous, la variété et la floraison continuelle des petites causes, ce serait assez pour ne pas se faire un destin. Lisez Gil Blas, c'est un livre sans gravité, où l'on apprend qu'il ne faut compter ni sur la bonne fortune ni sur la mauvaise, mais jeter du lest et se laisser porter au vent. Nos fautes périssent avant nous, ne les gardons point en momie. 28 août 1911. Propos 25. Prédiction. Je connais quelqu'un qui a montré les lignes de sa main à un mage afin de connaître sa destinée. Il l'a fait par jeu, à ce qu'il m'a dit, et sans y croire. Je l'en aurais pourtant détourné s'il m'avait demandé conseil, car c'est là un jeu dangereux. Il est bien aisé de ne pas croire alors que rien n'est encore dit. À ce moment-là, il n'y a rien à croire, et aucun homme peut-être ne croit. L'incrédulité est facile pour commencer, mais devient aussitôt difficile, et les mages le savent bien. « Si vous ne croyez pas, disent-ils, que craignez-vous ? » Ainsi est fait leur piège. Pour moi, je crains de croire, car sais-je ce qu'il me dira ? Je suppose que le mage croyait en lui-même, car si le mage veut seulement rire, il annoncera des événements ordinaires et prévisibles en formules ambiguës. Vous aurez des ennuis et quelques petits échecs. Mais vous réussirez à la fin. Vous avez des ennemis, mais ils vous rendront justice quelque jour, et en attendant, la constance de vos amis vous consolera. Vous allez bientôt recevoir une lettre, se rapportant à des soucis que vous avez présentement, etc. On peut continuer longtemps ainsi, et cela ne fait de mal à personne. Mais si le mage est, à ses propres yeux, un vrai mage, alors il est bien capable de vous annoncer de terribles malheurs. Et vous, l'esprit fort, vous rirez. Il n'en est pas moins vrai que ces paroles resteront dans votre mémoire, qu'elles reviendront à l'improviste dans vos rêveries et dans vos rêves, en vous troublant tout juste un peu jusqu'au jour où les événements auront l'air de vouloir s'y ajuster. J'ai connu une jeune fille à qui un mage dit un jour, après avoir analysé les lignes de sa main, « Vous vous marierez, vous aurez un enfant, vous le perdrez. » Une telle prédiction est un léger bagage à porter pendant que l'on parcourt les premières étapes. Mais le temps a passé, la jeune fille s'est mariée, elle a eu récemment un enfant. La prédiction est déjà plus lourde à porter. Si le petit vient à être malade, les paroles funestes sonneront comme des cloches aux oreilles de la mère. Peut-être s'est-elle moquée autrefois du mage. Le mage sera bien vengé. Il arrive toutes sortes d'événements dans ce monde. De là, des rencontres qui ébranleront le plus ferme jugement. Vous riez d'une prédiction sinistre et invraisemblable. Vous rirez moins si cette prédiction s'accomplit en partie. Le plus courageux des hommes attendra alors la suite. Et nos craintes, comme on sait, ne nous font pas moins souffrir que les catastrophes elles-mêmes. Il peut arriver aussi que deux prophètes, sans se connaître, vous annoncent la même chose. Si cet accord ne vous trouble pas plus que votre intelligence ne le permettra, je vous admire. Pour mon compte, j'aime bien mieux ne pas penser à l'avenir et ne prévoir que devant mes pieds. Non seulement je n'irai pas montrer au mage le dedans de ma main, mais bien plus je n'essaierai pas de lire l'avenir dans la nature des choses, car je ne crois pas que notre regard porte bien loin, si savant que nous puissions être. J'ai remarqué que tout ce qui arrive d'important à n'importe qui était imprévu et imprévisible. Lorsqu'on s'est guéri de la curiosité, il reste sans doute à se guérir aussi de la prudence. 14 avril 1908.
Fin de ce MP3, propos sur le bonheur, 17 à 25.
Enregistré par Christiane Johan.
À suivre.